Dieu soit béni. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, alors, on va commencer par invoquer l'Esprit Saint pour que ce soit lui qui parle et qui touche les cœurs. C'est lui qui les ouvre en tout cas. Et puis, on va après, peut-être pour ceux et celles qui souhaiteraient qu'on rappelle un tout petit peu, en quelques phrases, le charisme de la garde d'honneur pour ceux qui sont nouveaux, nouvelles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit et toutes choses seront créées. Et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Ô Dieu, illuminez les cœurs de vos fidèles avec la lumière de l'Esprit Saint. Accordez-nous de penser ce qui est droit selon ce même Esprit et de jouir toujours de sa consolation. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Jésus, doux et humble de cœur. Ô Marie, conçue sans péché. Alors, en quelques mots, j'aime bien la présenter comme ça, la garde d'honneur, c'est une école de sanctification indolore. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'on choisit une heure tous les jours la même. C'est pas un péché si on l'oublie, il s'agit bien d'un rendez-vous qu'on fixe au final, c'est quand même Jésus qui le fixe, hein, le rendez-vous. On croit que ça vient de nous, mais ça vient de lui, donc il faut plutôt l'interroger pour savoir à quelle heure il veut nous voir comme un petit soldat qui veille autour de son cœur pour le consoler en faisant quoi? En offrant ce que nous faisons par amour. Hein. Alors, à moins d'une grâce particulière, il est impossible de penser à Jésus d'une façon permanente. Donc, on offre cette heure en la débutant par une prière d'offrande. Donc, on accepte de se mettre en esprit, en lien avec Jésus présent à l'Eucharistie dans un tabernacle. Et pendant toute notre heure, on va faire des œillades, dit Saint-Louis-Marion Montfort. On va penser des retours, on va penser à Jésus. Après, pendant votre heure, quelqu'un téléphone. Vous répondez spontanément, mais le fait de savoir que justement c'est votre heure de garde, peut-être que si vous manquez de patience, justement, le fait de savoir que vous êtes à votre heure de garde, eh bien, vous appliquerez à écouter la personne avec plus d'attention, plus d'amour, pour le consoler de notre ingratitude et puis aussi pour nos péchés et pour ceux du monde entier. Puis aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça manque, hein, donc il y a de quoi faire, d'accord ? Après, il existe une deuxième heure où ce qu'on appelle l'heure de miséricorde, elle se vit dans la même démarche, c'est la même démarche, la même prière pour la débuter. Et par contre, on l'a fait, il ne faut pas confondre avec l'heure de miséricorde, le chapelet à la divine miséricorde. On ne va pas dire que ça se concurrence, au contraire, hein, ça s'entreporte, mais il s'agit bien de vivre une deuxième heure pour la conversion d'une personne, un groupe de personnes, un pays. Voilà. Donc l'inscription, c'est vers moi que vous tournez. Après, moi, je me remonte à Paray-le-Monial et vous êtes inscrit sur le cadran et vous recevez un petit bulletin qui justifie votre inscription au cadran de la Divine Miséricorde. Mais on ne peut pas avoir, parce qu'il y en a qui sont très gourmands, qui font l'inscription à la Divine Miséricorde sans avoir la première heure. Non, c'est pas possible. Pour la deuxième, il faut la première. D'accord ? Voilà, après, hein, c'est qu'une question d'amour. Hein. Il faut, le fondateur le dit, c'est pas la multiplicité des choses que nous faisons qui va fléchir le cœur de Jésus vers nous, hein, qu'on va obtenir une grâce, ça fonctionne pas comme ça. C'est l'amour qui donne de la valeur à ce qu'on fait. Donc, relever une aiguille, un petit mimi, hein, qui traîne dans la pièce par amour, sauve une âme si on y croit. Du moins, ouvrira le cœur de la personne. Et pas, alors je ne suis pas contre toutes les litanies ou les neuvaines qu'on peut faire pour Marie qui défait les nœuds, d'accord ? Je prends souvent en exemple. Et ça va m'introduire, avant qu'il y ait des questions, non, tout c'est clair pour tout le monde. Voilà. Alors pourquoi je dis que c'est indolore ? Parce qu'en somme, d'ouvrir une porte en disant « Jésus, je t'aime », d'aller faire ses courses avec Jésus, je ne vois pas en quoi ça coûte, hein. Il faut simplement y penser pendant son heure de garde. Par contre, c'est l'union avec Jésus qui va changer. changer notre cœur. C'est le fait de penser le plus qu'on peut à Jésus qui va, Jésus va se donner dans ce cœur à cœur, et c'est lui par sa vie divine, hein, son amour qu'il échange avec son Père dans la Sainte, avec l'Esprit Saint, la Sainte Trinité, et va nous visiter. Le fait de penser à lui, on le rend présent et c'est lui qui nous change. Donc, on a tout intérêt à vivre le plus qu'on peut en union avec lui. Que de faire des prouesses, d'actes de vertu pour se dire « il faut absolument que je change ». Par exemple, je suis impatient et j'en souffre, ou je me mets facilement en colère. Bah, c'est sûr qu'on peut, on peut essayer de faire des pratiques dans ce domaine, mais vous allez voir, à mon avis, vous allez vite vous décourager. Et puis, vous n'aurez pas, comment dirais-je, attrapé le lapin à la chasse. Hein. Donc, le mieux, c'est de... en tout cas, si on est lié avec la visitation, parce que la garde d'honneur vous ouvre quand même la spiritualité de la visitation, eh bien, c'est ce que nous faisons. Fille d'oraison, colloque amoureux avec Jésus le plus que nous pouvons. Donc on lui parle seul à seul. Hein. Mais vous allez vous dire, on finit par plus savoir quoi lui dire. Non, et tout ce que nous faisons, tout lui l'intéresse. Et c'est justement ça dont il s'agit de se convertir, c'est que nous faisons bien des choses tout seuls. Et nous pensons beaucoup de choses tout seuls, et beaucoup trop. C'est pour ça qu'on est après un peu malade. Et ça va peut-être m'introduire, tout à fait, avant de vous parler, de continuer l'étude du grand patriarche Saint-Joseph avec les écrits de notre saint fondateur, je vous proposais, parce que la rentrée, en plus aujourd'hui il fait gris, tout le monde n'a pas eu la joie d'avoir du soleil pendant ses vacances, moi qui ne regarde pas les infos, mais ça me vient par d'autres sources. Eh bien, je sais que la rentrée n'est pas facile à faire, c'est plutôt noir. Eh bien, je me suis dit, on est garde d'honneur, comment on va vivre cette rentrée? Donc, je vais faire un tout petit détour, en puisant quand même chez notre saint fondateur, parce que c'est le Père, hein, c'est lui qui nous nourrit, en tout cas dans notre démarche. Et je vous partage un petit texte de saint François de Sales, c'est donc dans son troisième entretien, en parlant justement de saint Joseph. Saint François de Sales veut faire une remarque sur le commandement que l'ange fit à saint Joseph, de prendre l'enfant et la mère et s'en aller en Égypte, et y demeurer jusqu'à temps qu'il l'avertisse de s'en retourner. Vraiment, l'ange parlait bien courtement et traitait bien saint Joseph en bon religieux. « Va et n'en reviens point que je ne te le dis. » Sur cette façon de procéder entre l'ange et saint Joseph, nous sommes enseignés en troisième lieu comme nous devons embarquer sur la mer de la divine providence. Très belle expression sur laquelle je vais rebondir. Sans biscuit, sans rame, sans aviron, sans voile et enfin sans nulle sorte de provision. Ainsi, laissez tout le soin de nous-mêmes à notre Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Sans retour, réplique ni crainte quelconque de ce qui nous pourrait arriver. Car l'ange dit simplement, prends l'enfant et la mère et t'enfuis en Égypte sans lui dire ni par quel chemin il ira, ni quelles provisions, ils auront pour passer leur chemin, ni en quelle part de l'Égypte, ni moins qui les recevra, ni de quoi ils se nourriront y étant. Le pauvre saint Joseph n'eut-il pas eu raison de lui dire quelques répliques? Vous me dites que je parte, et si promptement, tout à cette heure, pour nous montrer la promptitude que le Saint-Esprit requiert de nous lorsqu'il nous dit « Surge, lève-toi, sortant de toi-même et de telle imperfection. » Le Saint-Esprit est ennemi des remises et des délais. Je continue. Saint-Joseph n'eut-il pas pu dire à l'ange « Vous dites que j'emmène l'enfant et la mère, dites-moi donc, s'il vous plaît, de quoi les nourrirai-je en chemin ?» Car vous savez bien, mon Seigneur, que nous n'avons point d'argent. Il ne dit rien de tout cela, se confiant pleinement que Dieu y pourvoirait. Ce qu'il fit, quoique petitement, leur faisant trouver pour s'entretenir simplement ou par le moyen du métier de Saint-Joseph, ou même par des aumônes qu'on leur faisait. Certes, tous les anciens religieux ont été admirables en cette confiance qu'ils ont eue que Dieu leur pourvoirait toujours assez ce de quoi il leur serait nécessaire pour ce qui regardait l'entretien de leur vie, laissant ainsi tout le soin d'eux-mêmes à la divine providence. Mais, le saint fondateur continue, je considère qu'il n'est pas seulement requis de nous reposer en la divine providence pour ce qui regarde les choses temporelles, ainsi beaucoup plus pour ce qui appartient à notre vie spirituelle et à notre vie de perfection. Et on est bien là pour ça. Il n'y a certes que le grand soin que nous avons de nous-mêmes qui nous fasse perdre la tranquillité de l'esprit et qui nous porte si souvent à des inégalités et bizarreries d'humeur. Car dès que quelques contradictions nous arrivent, voire seulement quand nous apercevons en nous quelques petits traits de nos immortifications, que nous commettons quelques défauts, pour petits qu'ils soient, il nous semble que tout est perdu. Est-ce si grande merveille de nous voir broncher quelquefois en la voie de notre perfection? Mais je suis si misérable et rempli d'imperfection. Le connaissez-vous bien? Bénissez Dieu de quoi il vous a donné cette connaissance. Et ne vous lamentez pas tant, vous êtes bien heureuse de connaître que vous n'êtes que la misère même. Et c'est ça peut-être que gît la conversion. On se croit tellement quelque chose. Après avoir béni Dieu de la connaissance qu'il vous en donne, retranchez, voilà, coupez court, cette tendreté inutile vous fait plaindre de votre infirmité. Voilà. Je vais juste reprendre sur la divine providence. Voilà. Aujourd'hui, je ne veux surtout pas blesser qui que ce soit, ma démarche n'est pas là. Voilà. Je vous dirais que il n'est peut-être pas nécessaire à la fin de la rencontre de venir me voir pour me dire « Est-ce que ma mère, je dois me faire vacciner ou pas me faire vacciner? Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Hein ?» Justement, je vous propose d'avancer dans le mystère de la divine providence pour savoir ce que vous avez à faire. L'Esprit Saint parle différemment à un père de famille chargé de 4 enfants, par exemple, qu'à une célibataire qui vit d'amour et d'eau fraîche, on va dire. Hein. Donc, c'est pas en se comparant qu'on va savoir ce qu'on a à faire. Voilà. Et selon nos responsabilités, et ce que surtout le Seigneur dépose dans notre cœur. Voilà. Alors, on va dire, oui, mais attendez, ma mère, c'est quoi la divine providence, quoi? Oui, c'est s'abandonner, vogue la galère, et puis voilà, je me laisse aller, quoi, je laisse tout. Non, c'est justement tout l'inverse. Voilà. Il faut être très fort pour s'abandonner à la divine providence. Donc c'est aussi pour ça qu'on ne nous en parle plus. Hein. Alors, je vous ai toujours recommandé de jamais vous faire une idée sur « parce que le prêtre un tel m'a dit ça, donc je peux penser ça, c'est sûr que c'est vrai ». Il est possible que le père un tel vous ait dit quelque chose que lui-même a appris et qui est erroné. Donc après, l'erreur, elle se poursuit. Donc le mieux, quand on doute de quelque chose, quand on se pose une question, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que c'est condamné par l'Église, ça, etc. Est-ce que ça fait encore partie des péchés? Ou est-ce que si, est-ce que ça? Allez voir le catéchisme de l'Église catholique. Ça, c'est vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Puis là aussi, on nous a dit que c'était imbuvable. C'est complètement faux, quoi. C'est très lisible et c'est une lecture très, très goûteuse. Alors, qu'est-ce que dit le catéchisme sur la question? Au numéro 302, avec la création, Dieu n'abandonne pas sa créature à elle-même. Ça, c'est le numéro 301. Pour faire court, je ne veux pas tout vous lire. Je ressors simplement. Vous irez voir à votre temps libre, sur votre temps libre. Au 302, la création a sa bonté et sa perfection propre, mais n'est pas sortie tout achevée des mains du Créateur. Elle est créée dans un état de cheminement, vers une perfection ultime encore à atteindre, à laquelle a destiné, nous appelons divine providence, les dispositions par lesquelles Dieu conduit sa création vers cette perfection. Jésus demande un abandon filial à la providence du Père Céleste qui prend soin des moindres besoins de ses enfants. Dans l'évangile de Saint Matthieu, ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ? Qu'allons-nous boire ? Votre Père Céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice et tout vous sera donné par surcroît. » Dieu est le maître souverain de son dessein, mais pour sa réalisation, il se sert aussi du concours des créatures. Ce n'est pas là un signe de faiblesse, mais de la grandeur et de la bonté du Dieu Tout-Puissant, car Dieu ne donne pas seulement à ses créatures d'exister, mais aussi la dignité d'agir elles-mêmes, d'être cause et principe les unes des autres, et de coopérer ainsi à l'accomplissement de son dessein. Même le mal, Dieu utilise dans son mystère de la divine providence pour nous faire aboutir là où il veut qu'on arrive. Moi j'ajoute, alors je n'ai pas vérifié, mais on me disait que le saint Thomas d'Aquin dans sa somme dit aussi que Dieu va jusqu'à permettre le péché. Alors vous allez dire, c'est pas possible ma mère. Ben si, on va réfléchir. Un pécheur qui se repent permet à Dieu de faire miséricorde. Et ça, c'est une grande joie pour Dieu. Et ça, c'est ça qu'on a tendance à oublier. Par contre, le péché en lui-même, il est condamné. Le pécheur, non. Nous, on se tient dans le temps fini. Dieu se tient dans le temps infini. Donc il sait exactement, en pardonnant tel péché, donc en permettant tel péché à un homme, où il va arriver à sa conversion. Nous, on a le nez collé à notre guidon, on ne voit pas plus loin que notre bout du nez. Donc du coup, quand on pêche, on dit ça y est, c'est fini, on attend du coup à juger la personne, puisque Dieu sait que cette personne, en se convertissant, deviendra un grand saint Paul, voilà, évangélisateur. Voilà. Donc il a quand même persécuté les chrétiens, quand même. Hein. Donc voilà, c'est donc jamais tout ce qui nous arrive. Et je me rappelle un gardonneur qui m'avait dit, puisque toutes les histoires de confinement nous avaient pris un peu de fouet les premières fois, et c'était bien normal que ça désarçonne tout le monde, il m'avait dit, la personne, donc ce gardonneur, vous êtes sûr que Dieu ne nous abandonne pas, enfin, que ça, c'est, il le veut aussi, ça ne lui échappe pas. Ah oui, non, il faut qu'on soit clair sur ça. Rien de ce qui vous arrive, rien là de ce qui se passe aujourd'hui, on ne sait pas trop où on va. Moi, ce qui me rassure, c'est que je sais au moins que Jésus sait où on va, ça me va, moi. Mais rien de ce qui vous arrive ne lui échappe. Rien. Alors, voilà où il faut qu'on se place. Et pourquoi on perd pied ? C'est qu'on n'a pas le même souhait, le même désir. Hein. Nous, ce qu'on voit, c'est, on plante notre tente ici, on s'installe bien, vivons bien, nous mourrons gras. Bon, si c'est ça que vous voulez vivre, hein. Dieu se place à un autre niveau. Il est fou amoureux de votre âme. Et ça, on n'en a pas assez conscience. Il est fou amoureux de votre âme. Et pour ça, hein, pour vous empêcher d'aller en enfer, ou pour vous faire gagner davantage d'âmes, il a conçu dans son amour avec son Père tout un plan de conversion. Et je dirais qu'à chaque instant, il faut le voir, il faut l'imaginer penché sur vous, plaçant tel événement, suscitant telle parole, vous faisant rencontrer telle personne. Et oui, une nouvelle où vous apprenez, ah, vous avez un cancer. Ah, vous parlez que ça fait partie de la divine providence, ma mère, ça, il le veut aussi. Eh bien oui. Pourquoi ? Parce que dans la maladie, si vous retrouvez le sens de la prière, beaucoup ont entendu, moi on en a juste parlé, de ce couple qui va voir ses deux filles mitraillées là sur la place, sur une terrasse de café le jour de l'attentat du Bataclan. Qu'est-ce qu'a dit la femme, cette mère de famille et ce père? On a retrouvé le sens de la prière. On sait que maintenant elles nous attendent. Enfin, je suis désolée, hein, mais déjà peut-être, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, le Seigneur a pris ces deux femmes au mieux de leur vie. Et en plus, toujours pareil, ça c'est les calculs du bon Dieu, eh bien, il gagne les deux parents, quoi. Voilà. Alors que, à mon avis, la vie d'abondance, etc., la société dans laquelle on vit fait tout pour nous éloigner de Dieu, parce que de toute façon, il n'existe plus, eh bien, ils auraient perdu leur âme, quoi. Alors, c'est sûr que si on se place sur la terre, c'est clair qu'on a du mal à, que si on place notre bonheur sur la terre, dans les biens terrestres, jouissons, jouissons, parce que ça passe son temps à nous dire ça, c'est sûr que ce qui nous arrive, encore une tuile, c'est clair, hein. Mince, telle machine de la maison qui est tombée en panne, ou je perds mon travail, etc. Je dis pas attention, je n'ai pas dit que c'était facile, hein. Mais ceci dit, ça fait quand même partie du plan de Dieu. Voilà. Donc, c'est donc tout un chemin, toute une façon de se réapproprier notre vie, ce pourquoi on est là. Même, attention, même si l'ambiance dans laquelle vous êtes plongé n'est pas celle-ci, ça je... Vous savez, c'est pareil pour nous, hein. Mais ça n'empêche que c'est quand même la même vérité qui est donnée pour tout le monde. Après, on a tous des moyens différents pour le vivre. J'attends à voir à la fin de l'année le taux d'antidépresseurs qui sera délivré. Pourcentage d'antidépresseurs qui sera délivré. Les psychiatres disent que voilà, ils sont surbookés, comme on dit, quoi. Hein. Bon, normalement, un chrétien qui vit abandonné à la divine providence, je suis désolée, enfin, je dirais, enfin, souvent, nous, c'est ce qu'on nous dit, qu'est-ce que vous êtes souriante, qu'est-ce que vous êtes heureuse, je vais simplement vous dire, hein, j'ai toutes mes toitures, enfin toutes les toitures du monastère, il faut qu'elles soient refaites, tout est pourri. Enfin, si vous voulez, je ne fais pas un appel aux dons, mais s'il faut être clair, après le pignon de la chapelle qui doit être réparé parce que ça penche, après la façade de côté de la chapelle, il y a des infiltrations, les pierres, si vous regardez en sortant dans la cour de la chapelle, les pierres des corniches tombent. Donc je vous déconseille d'abord de poser votre vélo trop près des murs. Vous voyez, c'est ça mon quotidien, quoi. Ça n'empêche que... oui, parce que je crois que le Seigneur peut permettre à un bienfaiteur de faire un chèque. Et puis peut-être que le Seigneur peut aussi faire le miracle de déplacer la virgule. Je vais jusqu'à croire ça. Pourquoi je vais jusqu'à croire ça? Dans ma prière dernièrement, je me disais, dans l'évangile, Jésus invite pour le miracle, c'est la foi qui fait faire le miracle. Hein. Dites à cette montagne de se déplacer, si vous avez suffisamment de foi, elle se déplacera. J'ai pris ça dans ma prière et j'ai eu la lumière, voyons, on partage nos petits biens, que le miracle ne vient pas de l'acte de foi où on assomme Jésus en disant je crois que tu peux faire ça, je crois que tu peux faire ça, je crois que tu peux faire ça. C'est pas ça l'acte de foi. Plus on va rentrer dans le mystère de la divine providence, qui est un mystère à découvrir pour aujourd'hui si on ne veut pas être décapité par l'ambiance, plus on va vivre ce mystère de la divine providence, plus il va nous vider de nous-mêmes, plus il va prendre de place. Et dans cette place, c'est lui qui va justement prendre toute la place, il va nous donner, je vais prendre un terme qui va peut-être plus vous parler, vous qui passez du temps sur qui avez l'ordinateur plus accessible que moi, eh bien, il va nous connecter à sa mémoire, à sa pensée, à ce qu'il pense, à ce qu'il dit. Et du coup, le désir de faire un miracle, c'est le sien. Je ne peux pas faire un miracle s'il ne dépose pas chez moi le miracle. Les saints ont fait des miracles, pourquoi ? Ça venait de Jésus. Ce n'est pas eux qui ont fait le miracle, c'est Jésus qui dépose dans le cœur la possibilité de faire le miracle. Donc il est donc à tout le monde peut faire donc un miracle dans le but, par contre si la personne se vide d'elle-même. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre le mystère de la divine providence. C'est qu'on est imbu de nous-mêmes. On est tous des orgueilleux. C'est là notre problème. Hein? S'abandonner, on se dit « oh c'est facile ». Non, c'est pas facile de s'abandonner. Se livrer, c'est accepter. C'est quoi s'abandonner au final? C'est dire oui à la volonté de Dieu. Tout ce qui m'arrive, quel qu'il soit qui m'arrive, je dis oui. Je veux savoir, tiens, c'est facile? Non. Par contre, quand je le fais, je dis oui, même quand c'est heureux, c'est facile, hein, quand c'est moins heureux, je dis oui quand même. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'ouvre à l'intérieur et l'Esprit Saint rentre et là, il prend de la place. Et petit à petit, il dépose la possibilité de faire un miracle. Parce que c'est clair qu'il va falloir faire des miracles. Et Seigneur va le demander de faire des miracles. Rien que pour les conversions. Et puis, il n'a pas dit, notre saint fondateur, qu'il s'intéressait aux causes matérielles. Vous êtes sûrement plus au courant que moi. Fin de l'année, ça s'est déjà commencé. En janvier, ils annoncent des augmentations de fou sur l'électricité. Qui va pouvoir se chauffer? Il va falloir être richissime. Bah, il s'avère que moi, c'est pas mon cas. Moi, je suis riche de Dieu, moi, j'espère. Donc voilà. Et je compte plus sur lui que sur moi. Voilà. Je voudrais juste finir là-dessus. J'ai encore une petite demi-heure pour prendre le sujet. Les témoignages des saints sur le mystère de la divine providence, parce que c'est quand même toujours musclé. Saint Catherine de Sienne dit ceci. À ceux qui se scandalisent et se révoltent de ce qui leur arrive. C'est facile hein, de dire oui quand ça va dans notre sens. Tout procède de l'amour, tout est ordonné au salut de l'homme, Dieu ne fait rien que dans ce but. Voilà. Mais je vous le redis, Dieu est amoureux de nous. Alors quand c'est dur, Jésus m'aime, moi ça m'arrive, non un gros coup sur la tête. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà ce que je fais, je m'arrête. Je prends du temps, je vais le voir au cœur, près du tabernacle, et je lui dis, bon, qu'est-ce que vous voulez, Jésus? Voilà, je désarme. Et puis j'écoute, je fais silence. Voilà. Mais prendre le temps, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas, qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi vous permettez? Gna 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 gna. Et alors là, on passe des semaines, tout, tout, tout. Et qu'est-ce qui se passe dans tout ça? On perd ses forces. Voilà. Et puis ben après, on perd le sommeil. Et on peut même déclencher une maladie. Non, quand ça nous arrive et qu'on ne comprend pas, Jésus vient nous dire quelque chose, parce qu'il est amoureux de nous, et c'est un message d'amour à chaque fois. Et quand c'est dur, le sentiment de colère, d'insécurité, d'inconfort, de vulnérabilité, il faut le voir comme une corde qu'on tend à Jésus et on dit à Jésus, descends dans mes profondeurs. Oui, vas-y, viens guérir. Voilà, je ne suis pas un saint. Et Dieu a besoin de la sainteté aujourd'hui pour changer le monde. C'est que les saints qui sont les vrais réformateurs de la société. Les paroles, ça touche là, mais ça ne change rien là. Ça saurait, hein, pour évangéliser, on irait sur les places et on parlerait. Même si c'est nécessaire. Mais ça ne fait pas tout. Du moins, ça ne fait pas la file d'attente devant les confessionnaux. Parlez-moi de conversion sans confession. C'est de l'illusion. Alors, sur ce, à moins qu'il y ait des questions, j'avance. C'est bon. Je voudrais juste revenir sur le texte que je viens de lire, où notre saint fondateur disait que le Saint-Esprit est ennemi des remises et des délais. C'est quand même assez... on se dit, ah mince, donc quand j'ai une inspiration, après avoir vérifié que c'est bien l'Esprit-Saint, qu'il est ennemi des remises et des délais. Alors, je me suis dit, le mieux, c'est d'aller voir mais qui est cette troisième personne de la Sainte Trinité, pour qu'on n'ait pas le droit de le faire attendre. Alors, je suis allée voir l'encyclique Dominum Vivificantem, du 18 mai 1986 de Saint Jean-Paul II. Juste un petit passage. Quand pour Jésus-Christ l'heure est venue de quitter ce monde, il annonça aux apôtres un autre paraclet. L'évangéliste Jean, qui était présent, écrit qu'au cours du repas pascal, la veille de sa passion et de sa mort, Jésus leur adressa ces paroles. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais l'Esprit de vérité. Cet Esprit de vérité, précisément, Jésus l'appelle le paraclet. Paracletleos veut dire consolateur et aussi intercesseur ou défenseur. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne vois pas en quoi on peut avoir peur. Esprit de vérité, esprit qu'on appelle intercesseur, défenseur. Et il dit qu'il est un autre paraclet, le second, parce que Jésus-Christ lui-même est le premier paraclet, car il est le premier qui porte et donne la bonne nouvelle. L'Esprit Saint vient après lui et par lui pour poursuivre dans le monde, grâce à l'Église, l'œuvre de la bonne nouvelle du salut. Il est, hein, c'est le sanctificateur, c'est lui qui nous sanctifie. Alors, par rapport à notre rôle de garde-honneur, je me propose de vous lire un très beau passage qui va camper son rôle, et c'est pourquoi il nous faut l'inviter, et ce à quoi nous sommes surtout appelés. Et donc c'est un passage d'un livre que je vous recommande, du père Bernardo Dominicain, de l'Eucharistie à la Trinité. On apprend plein de belles choses sur l'Eucharistie, et entre autres celle-là. Notre vocation surnaturelle est la Trinité. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a élus en lui dès avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans tache dans l'amour. Ainsi donc, de toute éternité, Dieu s'est occupé de nous. Le Père a une pensée sur nous, une pensée qui est en même temps une volonté. Voilà, dans la prière, se dire voilà, « Dieu a une pensée sur moi de toute éternité ». Il a dit sur chacun de nous une parole, un mot qui nous crée et qui nous exprime et contient notre vie temporelle et éternelle, et dit ce que nous devons être, la place que nous devons tenir, la perfection que nous devons réaliser, la gloire que nous devons atteindre. Ce mot, le Père Céleste l'a prononcé lorsque, voulant traduire sa pensée souveraine sur nous, il a fixé notre vocation surnaturelle. Règle suprême et divine théorie de notre existence, il indique en quelle mesure nous entrerons dans le plan divin de la création. Il ne s'occupe de nous pour nous verser sa grâce et se donner lui-même qu'autant que nous nous mouvons dans la lumière de sa pensée impérative et que, en la réalisant, nous entrons dans l'ordre divin des réalités éternelles. Notre devoir fondamental se réduit donc à ceci. Accomplir la volonté du Père Céleste. Vivre selon le mot qu'il a dit sur nous. D'avance accepter tout ce que ce mot contient, joie ou douleur. Ensuite, se soumettre amoureusement à toutes ses exigences, à mesure qu'elles se manifestent dans notre vie quotidienne. Mais quelle est-elle, cette mystérieuse pensée ? Bah oui. Que dit cette parole ? Saint Paul répond, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. La volonté de Dieu est que nous entrions dans le mystère du Christ. Le mot qu'il prononce sur nous exprime la mesure et la manière dont nous reproduirons Jésus par la grâce de notre Père des cieux. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses fils adoptifs par Jésus-Christ pour la louange de la gloire de sa grâce. Telle est notre vocation surnaturelle, nous conformer à Jésus, vivre comme Jésus, devenir Jésus. Le Verbe incarné est l'idéal unique et universel que doivent reproduire et manifester tous les prédestinés de l'amour. Séculiers, prêtres ou religieux, vierges ou mariés. Pour tous, il n'y a qu'un exemplaire qui soit forcé d'imiter, sous peine de s'exclure du royaume de la grâce, le Christ Jésus. C'est clair. La mesure de leur perfection et de leur fécondité surnaturelle sera très exactement la mesure de leur adhérence à Jésus et de leur fidèle ressemblance avec lui. Car le salut n'est en aucun autre. Dans quelle mesure dois-je le reproduire en moi ? Je ne sais. C'est le très mystérieux secret de la prédestination éternelle. Mais certainement, je dois le reproduire. Je dois sans cesse regarder Jésus, imiter Jésus, devenir Jésus. Regardez Jésus dans une journée, votre heure de présence. Dans mon heure de présence, combien de fois je l'ai regardé. Ces œillades, quoi. Voilà. C'est sûr que si on regarde le précipice à gauche et à droite, et le mur qui est en face. Comment pourrais-je remplir une vocation si sublime? Avec la grâce et la coopération de l'Esprit-Saint. Demeurant toujours avec nous, l'Esprit-Saint se fait l'exécuteur des desseins du Père, l'ouvrier de la déification de l'homme, dont le Père a tracé le plan sur le modèle du Verbe incarné. Comme le peintre ou le sculpteur se sert de sa main pour exprimer l'idéal qu'il a conçu, le Père Céleste, pour traduire sa pensée, inscrire son Verbe et graver en nous son image, se sert de l'Esprit-Saint. D'où toutes les petites difficultés sur le chemin. C'est les petits coups de peinture, les petits coups de pinceau. La première œuvre en nous de cet esprit créateur et sanctificateur est de nous transformer à la ressemblance du Fils de Dieu et de nous faire vivre d'une vie conforme à notre filiation divine. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption en qui nous crions « Abba, Père ». Cet esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Petit conseil au passage, la grâce à demander, c'est la docilité à l'Esprit-Saint pour une vie intérieure intense, la souplesse intérieure. Demander, pour ça j'ai tendance à l'apprendre, j'aime beaucoup, la neuvaine à Marie qui fait les défait les nœuds. Une difficulté, je fais la neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Non, demander la grâce de la souplesse pour dire oui. Ce qui vous paraît un obstacle, c'est un tremplin pour que le Saint-Esprit vienne peut-être transformer quelque chose qui fait obstacle à votre ressemblance avec Jésus et du coup qu'empêche à une autre âme de se convertir. On n'avance pas tout seul. Esprit de vérité, il illumine en notre âme l'éternelle pensée du Père. Il nous la rend plus claire, plus précise et plus attrayante en nous révélant Jésus. Quand l'Esprit sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. Il me glorifiera en vous laissant davantage connaître ma grâce et ma divinité. Étant la consommation et la consécration de tout, il continue par imprimer en notre âme cette adorable pensée du Père qui est Jésus. Il la rend fixe, permanente et autant que nous le pouvons, irrévocable. Mystère que contemplait David quand il chantait, le prophète, « La lumière de ton visage, Seigneur, a été imprimée sur nous comme un sceau, car le visage du Seigneur, sa splendeur et sa gloire, c'est le Verbe. » Ensuite, parce qu'il est l'esprit de vie et le moteur de la vie surnaturelle, il met en œuvre la pensée du Père. Il nous pousse à réaliser la complète ressemblance avec le Christ. Il nous excite et nous aime jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite du Christ, jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous. Et c'est là qu'on sera heureux. Le bonheur ailleurs que là, illusion. Enfin, étant personnellement l'amour, l'échange du Père et du Fils qui donne l'Esprit-Saint, c'est l'amour du Père et du Fils. Hein? L'Esprit-Saint, c'est l'amour. Établi entre la Trinité et nous des relations d'amour, une tendance perpétuelle à l'union. Quand on est garde d'honneur et qu'on est proche du Sacré-Cœur, qui est justement le symbole de l'amour pour son Père Jésus et pour nous, c'est l'Esprit-Saint. Qu'est-ce qui coule du cœur percé du Sauveur sur la croix? Loué le sang et les pères de l'Église y ont vu l'Esprit-Saint et l'Eucharistie. Il nous attire vers elle. Il est l'appel incessant, l'attraction vivante, l'aspiration irrésistible qui nous entraîne à Jésus, si bien que, à mesure que l'âme s'abandonne davantage à la pensée du Père mise en œuvre par l'Esprit-Saint, l'union se fait et plus étroite et plus complète jusqu'au moment où, comme le Père est dans le Fils et le Fils dans le Père, l'âme est dans le Christ et le Christ est dans l'âme, tous deux consommés en l'unité selon le vœu suprême de la scène. Alors vous allez me dire, oh ma mère, ça c'est pour les saints. Eh ben non, justement. Là, peut-être que vous serez saint quand vous arriverez là, si je suis d'accord, mais c'est pas réservé aux saints. C'est tout garde-honneur, tout chrétien. C'est ça qui nous demande, de mourir à notre volonté propre, de vaincre, de donner des coups sur notre orgueil, parce que notre saint fondateur dit qu'il mourra un quart d'heure après nous, donc c'est pas la peine d'envisager que, de faire disparaître de notre vivant. Par contre, notre volonté propre, si. Hein. Comme je vous ai dit, en disant oui à tout ce qui vous arrive. Et l'Esprit Saint, en disant oui à tout ce qui vous arrive, va dessiner, va imprimer hein, Jésus-Christ en nous, sa pensée, ses goûts, ses désirs. Alors oui, de fait, vous aurez une union plus facile et plus permanente avec lui. Tout sera une occasion d'union. Alors l'homme racheté et sanctifié peut se présenter en confiance devant le Père Céleste et lui dire « Ô Dieu, regardez-moi, regardez en moi la face de votre Christ. » Voilà. Imaginez quoi, Dieu le Père vous regardant et en vous regardant il dit « C'est mon Fils. » Voilà. Marie quand elle regarde un prêtre, par sa consécration, elle dit « C'est mon Fils. » Un prêtre est un autre, Jésus. Alors bien sûr, il faut qu'il vive et il faut que nous vivions comme Jésus a vécu, de la même pensée, du même amour. Aimer nos ennemis, si on nous en avons. Et puis tout le reste, tout ce que je ne vais pas redire. Et en somme, c'est très simple. Hein, en disant oui, comme Marie, elle a permis par son oui à l'incarnation, en elle, du Verbe. Et nous, de quelle incarnation il nous serait donné de vivre en disant oui ? Sauver les âmes. Se sauver soi et sauver les âmes. Vous ne vous, vous rendez pas compte de la grâce, du bonheur que vous avez d'avoir Jésus dans votre vie. Regardez autour de vous. Qui a Jésus aujourd'hui dans sa vie ? On est quand même le petit reste. Hein ? Puis ça se réduit quand même, hein, comme une peau de chagrin. On n'a pas envie que d'autres communient avec bonheur. Voilà. Combien de souffrances nous arrivent aujourd'hui? Et on voit bien que la solution, c'est quoi? C'est Jésus. Parce que dire qu'il n'y aura plus jamais souffrance, non mais alors là aussi, c'est illusion. La croix nécessaire, notre Père exagère peut-être en disant ça, moi, elle va vous choquer, même si j'y crois. À qui on communie? Qui vous suivez? Qui vous aimez? Jésus sur la croix. Jésus ressuscité, c'est certain, mais Jésus sur la croix quand même. Tout pareil, c'est dans son éternité, tous les mystères de Jésus se tiennent. Hein. En communiant à Jésus ressuscité à l'Eucharistie, vous communiez aussi à Jésus crucifié. Voilà. Donc, quand on suit et quand on aime un Jésus crucifié, c'est une petite sœur de la Visitation. Le monastère est fermé depuis bien longtemps, mais elle dit ça, c'est très beau. Comment se fait-il qu'en recevant Jésus victime, hein, victime mort sur la croix, l'Eucharistie, la messe, c'est pas ça, le saint sacrifice de la messe, c'est pas le renouvellement du saint sacrifice du calvaire, mais si, c'est pas du folklore. Eh bien, comment se fait-il que votre cœur ne soit pas, que vous ne deveniez pas âme victime? Une âme victime, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'offre, qui dit oui à tout ce que Jésus propose. Voilà. Pour être changé en Jésus victime, et en étant changé en Jésus victime, vous serez l'un dans l'autre, dans le Père. Voilà. Et c'est ça le bonheur. Hein. Et du coup, vous contaminerez le monde. C'est ça que j'attends. Parce que ils font tout ce qu'ils peuvent avec les lumières qu'ils ont pour essayer de changer quelque chose qui, dans notre monde qui ne va pas bien, nos politiques. Hein. Saint Paul nous demande de prier pour eux, et j'avoue que je prie pour les hommes, les gouvernants, hein, qui ils font ce qu'ils peuvent, avec les lumières qu'ils ont, leur propre histoire. Peut-être que si moi j'y étais, je ferais peut-être pire. Donc voilà. Hein. Le Saint Fondateur nous invite toujours à nous mettre avec celui qui achète et puis celui qui vend. Comme ça, le jugement, il n'y en a pas, puis ça ne sert à rien. Ça ne va surtout pas faire changer les choses. Par contre, prier, changer, me sanctifier pour que le monde change. Oui, ça, moi, j'y crois. Alors, je vais, comment dirais-je, j'ai quand même un petit quart d'heure. Je vais vous faire passer un texte. Hein. Parce que même si on ne voit pas en entier, vous pourrez le reprendre dans votre prière. C'est un texte sur le deuxième entretien, donc la confiance et l'abandonnement, et qu'on va découvrir en tout cas sur le dernier quart d'heure de nos saints fondateurs, sur justement mais comment je peux m'abandonner avec ce que je suis. Vous venez de dire que je suis que misère, je suis néant. Et je vous dis, c'est en ça que la conversion est importante, parce qu'on se croit tous quelque chose. C'est plus facile après de reprendre chez soi, de se familiariser avec le texte, parce qu'on trouve il y a rien de mieux quoi. Et c'est plein d'enthousiasme, enfin c'est plein d'espérance, et puis c'est surtout que si on est tombé justement dans l'ornière, de se décourager de soi-même, de ses défauts, etc., ça permet de on fait con, je suis un péché d'orgueil plutôt que de me frapper la poitrine, quoi, c'est subtil. L'on propose si une âme peut, ayant le sentiment de sa misère, aller à Dieu avec une grande confiance. Je me sens, pire des pires, j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire, comment voulez-vous que je fasse confiance à Dieu? Non seulement l'âme qui a la connaissance de sa misère peut avoir une grande confiance en Dieu, mais elle ne peut avoir une vraie confiance qu'elle n'ait la connaissance de sa misère. Voilà l'articulation. Alors c'est pour ça que ce n'est pas la peine d'essayer de... Pour avoir une grande confiance, en Dieu, il faut avoir connaissance de soi, hein. Donc de sa misère, de son néant. Alors, mais elle ne peut avoir une vraie confiance qu'elle ait la connaissance de sa misère, car cette connaissance et confession de notre misère nous introduit devant Dieu. Aussi, tous les grands saints, comme Job, David et autres, commençaient tous leur prière par la confession de leur misère et indignité, de sorte que c'est une très bonne chose de se reconnaître pauvre, vil et abject, et indigne de comparaître en la présence de Dieu. Ce mot tant célèbre entre les anciens, connais-toi toi-même, encore qu'ils s'entendent, connais la grandeur et excellence de ton âme, pour ne pas la point avilir et profaner en des choses indignes de sa noblesse. Il s'entend aussi, connais-toi toi-même, c'est-à-dire ton indignité, ton imperfection et misère. Plus nous sommes misérables, plus nous nous devons confier en la bonté et miséricorde de Dieu. Car entre la miséricorde et la misère, il y a une certaine liaison si grande que l'une ne se peut exercer sans l'autre. Si Dieu n'eût point créé l'homme, il eût été vraiment toujours tout bon, mais il n'eût pas été actuellement miséricordieux. D'autant qu'il n'eût fait miséricorde à personne, car à qui faire miséricorde sinon misérable? Vous voyez donc que tant plus nous nous connaissons misérables et plus nous avons occasion de nous confier en Dieu, puisque nous n'avons rien de quoi nous confier en nous-mêmes. La défiance de nous-mêmes se fait par la connaissance de nos imperfections. Il est bien bon de se défier de soi-même. Mais de quoi nous servirait-il de le faire, sinon pour jeter toute notre confiance en Dieu et nous attendre à sa miséricorde? Or, j'entends bien que ces choses qui arrivent ainsi, entre autres, ne sont pas des doutes et défiances de la miséricorde en ce qui regarde notre salut. Mais c'est une honte et certaine confusion que nous avons d'approcher de notre Seigneur. Nous commettons des infidélités et nous avons lu qu'il y a des grandes âmes comme Sainte Catherine de Sienne et la Mère Thérèse qui, lorsqu'elles étaient tombées en quelques défauts, avaient de ces confusions et notre amour-propre nous fait accroître que nous en devons aussi avoir. Et nous disons, hélas Seigneur, je n'oserai jamais m'approcher de vous, je suis si misérable. Et tout cela n'est qu'un peu de satisfaction de l'amour-propre. C'est notre saint fondateur. Il va toujours, il vous dit les choses telles qu'elles sont. Hein. Donc, on se dit misérable, voilà, on dit misérable, etc. Mais au final, est-ce qu'au fond de soi, on croit vraiment, quoi? Quand par contre, il y a quelqu'un qui dit de nous, devant nous, qu'on est misérable, en général, notre orgueil est piqué et là, on réagit. Et là, on fait compte, oh ben, on n'y croyait pas tout à fait, hein, qu'on était si misérable que ça. Hein. Ça, c'est ce qu'il dit. Je ne dis pas que ces confusions ne soient extrêmement bonnes comme elles sont bien, quand elles sont bien appliquées. Vraiment, il est bien raisonnable qu'ayant offensé Dieu, nous nous retirions un peu par humilité et demeurions confus. Car si seulement nous avons offensé un ami, nous avons bien honte de l'aborder. Mais il n'en faut pas demeurer là, car ces vertus d'humilité, d'abjection et de confusion sont des vertus mitoyennes, par lesquels nous devons monter à l'union de notre âme avec son Dieu. Ce ne serait pas grand-chose de s'être anéanti et dépouillé de soi-même, ce qui se fait par ces actes de confusion, si ce n'était pour se donner tout à Dieu, ainsi que saint Paul nous l'enseigne quand il dit « Dépouillez-vous du vieil homme et vous revêtez du nouveau », d'autant qu'il ne faut pas demeurer nu, mais se revêtir de Dieu. Ce petit reculement ne se fait que pour mieux sauter et s'élancer en Dieu par un acte d'amour et de confiance, car il ne faut pas se confondre tristement ni avec inquiétude. C'est l'amour propre qui donne ces confusions-là, parce que nous sommes maris, tristes, ça veut dire, de n'être pas parfaits. Voilà. Non tant pour l'amour de Dieu que pour l'amour de nous-mêmes. Vous savez, il est partout, ce fichu orgueilien. Mais c'est pas grave, pas grave. On le reconnaît, on s'humilie et hop, on met un pied devant l'autre, on avance. Mais vous dites que vous ne sentez point cette confiance. Quand vous ne sentez pas, il en faut faire un acte et dire à notre Seigneur, encore que je n'ai aucun sentiment de confiance en vous, je sais pourtant que vous êtes mon Dieu, que je suis toute vôtre et je n'ai espérance qu'en votre bonté. Ainsi, je m'abandonne toute en vos saintes mains, et il est toujours en notre pouvoir de faire de ces actes, et quoique nous y ayons de la difficulté, il n'y a pourtant pas de l'impossibilité. Et c'est en ces occasions-là, parmi les difficultés, et nous devons témoigner de la fidélité à notre Dieu. Car bien que nous les faisons sans goût ni aucune satisfaction, il ne s'en faut pas mettre en peine, puisque notre Seigneur les aime mieux ainsi. Ne nous arrêtons pas à ce que nous sentons. D'attendre, comme dit notre saint fondateur, de sentir qu'on fait confiance ou de sentir qu'on s'abandonne. On peut très bien avoir posé un acte d'abandon et pleurer. Ça ne veut rien dire du tout. Alors, tout ce qui est dans l'illusion, voilà, on dit, moi je m'abandonne, voilà, j'entends ça des fois, faut avoir le sourire, faut être hilar, parce que je suis abandonnée, donc je suis dans la joie. Bah, tant mieux pour vous si ça vous est donné, quoi. Mais moi je reconnais que je peux vivre des moments d'abandon, je peine, quoi. Je suis pas obligatoirement déjà rendue au 7e ciel, quoi. Non, c'est comme le Seigneur voudra. Il vous a fait, vous êtes à lui. Les sentiments qui vous habitent viennent de lui. Donc, il peut très bien déposer un sentiment d'amertume, de sécheresse, pour vous garder petit. Il y en a qui peuvent s'enorgueillir de se sentir « Oh, je sens que je suis dans l'abandon, ça vient de moi, ça y est, clac, c'est perdu. » Il y a un gros péché d'orgueil au passage. Voilà. Seigneur nous aime trop. Il est amoureux de notre perfection. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Je vais lui donner la grâce de l'abandon. Elle m'a dit oui, mais je ne vais pas lui donner le sentiment parce qu'elle va pécher dans l'orgueil. C'est ça qu'ils se disent là-haut, les trois. Ils nous aiment. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Je ne suis pas abandonnée, je ne suis pas abandonnée. Mais si, quoi. Et pourquoi Jésus, il fait ça? Ben non, dis oui seulement. Et cherchez pas à comprendre tout. Point, fermez les guillemets ou la parenthèse. Je t'ai dit oui, je ne veux rien savoir, Jésus. Voilà. Vous croyez que Saint-Pierre a tout compris de la passion? Non, il va comprendre à la fin, quand Jésus va lui demander. Enfin, trois fois quand même. M'aimes-tu? Au premier, il n'a même pas trop compris. Deuxième, bon, à troisième, ça y est, quoi. Mais quand même, quoi. Ben, nous, vous croyez qu'on est pas des Saint-Pierre de temps en temps? Voilà donc. Alors, attendez, non. Il ne s'en faut pas mettre en peine, puisque notre Seigneur les aime mieux ainsi. Et ne dites pas, je l'ai dit vraiment, mais ce n'est que de bouche, car si de cœur ne le voulait, la bouche n'en dirait pas un mot. Ayant fait cela, demeurez en paix, et sans faire attention sur votre trouble, parlez à notre Seigneur d'autre chose. Voilà. C'est important, n'analysez pas, parce que vous allez l'analyser avec quoi? Avec vous-même, avec un être blessé par le péché. Donc, obligatoirement, l'analyse sera fausse. Donc c'est par une tierce personne, donc on n'a pas toujours la tierce personne, donc on ferme et puis on avance, on dit oui à Jésus. Voilà donc pour la conclusion de ce premier point, qu'il est bon d'avoir de la confusion quand nous avons la connaissance et sentiment de notre misère et imperfection, mais qu'il ne faut pas s'arrêter là, ni tomber pour cela en découragement. Ainsi relever son cœur en Dieu par une simple confiance de laquelle le fondement doit être en lui et non pas en nous. On est une planche pourrie, hein. D'autant que, encore que nous changions, il ne change jamais et demeure toujours aussi doux et miséricordieux quand nous sommes faibles et imparfaits que quand nous sommes forts et parfaits. J'ai accoutumé de dire que le trône, ça c'est plus beau, le trône de la miséricorde de Dieu, c'est notre misère. Voilà. Donc je dirais quelque part, si on n'a pas de la misère, donc il nous faut en avoir. Il faut donc, d'autant que notre misère sera plus grande, avoir une plus grande confiance, car la confiance est la vie de l'âme. Ôtez-lui la confiance, vous lui donnez la mort. Et moi j'ajoute, ce ne sont pas les péchés aujourd'hui et Dieu qui sont grands contre la chasteté. Hein, ce n'est pas cela. C'est qui blesse le cœur de Jésus. C'est le manque de confiance qui blesse le plus le cœur de Jésus. La confiance est la clé qui ouvre le cœur de Jésus. Je crois que je n'ai pas le temps de faire l'autre. Ouais, je vais vous laisser. C'est pas grave, vous découvrirez l'autre partie du texte chez vous. Voilà. Je voulais juste, à moins qu'il y ait des questions. Non. Ouh, j'ai été claire. Merci Seigneur. Merci à l'Esprit Saint. Je parlais un dernier avec la prière, mais je voulais reconfier à la prière de la. De la communauté, enfin de la, oui, de la communauté, mais de la communauté qui est la garde d'honneur, tous les gardes d'honneur qui souffrent dans leur corps, hein, parlent de la maladie. Hein. Il y a une garde d'honneur qui se reconfiait, qui a eu un gros problème cardiaque. Et donc, je me suis dit, je vais la confier à la garde d'honneur. Et j'en profite aussi pour vous déjà confier dans la prière, parce que tout doit se vivre dans la prière, parce que rien ne se fait sans la prière et le sacrifice. Eh bien, l'année prochaine, on fêtera la naissance au ciel de notre saint fondateur. Et dans ce cadre, c'est donc une année jubilaire, dans ce cadre, on aura, pour moi en tout cas, une petite pause d'un an. Ce n'est pas moi qui ferai la formation tous les mois. Elle aura lieu tous les deux mois. Elle sera faite par le Père Joël Guibert. Il vous propose, enfin la comté vous propose de vivre une journée, en somme, de réco, hein, tous les deux mois, où il vous présentera un enseignement sur notre saint fondateur, qui sortira un livre sur saint François de Sales. Voilà. Donc il y aura donc la possibilité, il y aura un temps d'adoration, la possibilité de se confesser aussi, et d'avoir deux enseignements. On pourra aussi, alors moi, je fais, C'est le Seigneur qui a organisé, donc au niveau sanitaire, c'est son problème, c'est pas le mien. Il y aura possibilité de, comment dirais-je, de manger sur place, parce que ça commencera avec la Sainte Messe suivie d'un enseignement. Il y aura donc la pause, à moins que vous soyez tous des anges, mais il nous faut quand même manger, quoi. Hein, donc manger, et puis il y aura donc la reprise avec l'office de nonne, exposition du Saint-Sacrement, et puis deuxième enseignement, et vêpres avec la communauté, puis ce sera terminé. Mais donc déjà de le prendre dans la prière, et puis c'est surtout pour ceux et celles qui ont pris au cours de l'année, déjà il y a 2 ans, leur engagement. Ils n'ont pas pu recevoir la médaille de la garde d'honneur, prendre officiellement leur engagement, parce que pour l'instant ça fait 2 ans qu'on n'a plus de week-end. Hein. Donc dans la prière, et puis le Seigneur, bah, il vous dit, il est fou amoureux, donc il se dit, bah non, ça commence à faire, quoi, 2 ans, on va pas faire une 3e année, quoi, parce qu'on n'arrive pas à rassembler les masses. Hein. Donc, à chaque rencontre, tous les 2 mois, il y aura donc possibilité de prendre son engagement. Hein. Et puis je me dis, pourquoi pas, à la messe, pour ceux qui veulent, on prévoit aussi, dans le prolongement de la Sainte Communion, au moment de l'action de grâce, de renouveler notre engagement, parce qu'on peut renouveler son engagement tous les jours. Hein. Donc ce sera l'occasion. On va changer la formule, quoi. Alors les dates, etc., même si les tracts sont tirés, seront communiqués, bien sûr, à la fin de l'année. Hein. Mais je vous en parle déjà, parce que c'est une nouvelle formule, on va dire. Et voilà. Donc en grande union de prière, hein. Donc la prochaine fois c'est le 23 octobre, d'ici là on va vivre la fête de Sainte Marguerite Marie, qui est une possibilité d'une indulgence plénière pour les gardes d'honneur, et puis donc grande fête à la Visitation avec journée exposition du Saint-Sacrement. Voilà. Et puis en action de grâce aussi, vous avez dû voir la petite affiche sur la porte de la chapelle, pour entrer dans la chapelle, le sas là en vert, que le cœur de Jésus a donné un aumônier à la Visitation, voilà, grâce, qui confesse tous les vendredis. Donc il paraît-il que c'est pas si facile de trouver un confesseur, donc là vous savez que tous les vendredis il y aura possibilité de se confesser, hein. Donc là c'est pour je sais pas, bon, je vais